déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À déroulement du livre, nous vous présentons le père Michel Proulx, chanoine régulier de l'Ordre des Prémontrés, théologien, prieur de la communauté de Saint-Constant. La série s'intitule « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc ».
Bonjour, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui pour notre deuxième émission où est-ce que nous explorons mon livre « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc ». Aujourd'hui, nous débutons l'exploration d'un premier passage de l'Évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 14 à 20. Mais juste avant de lire le texte, comme c'est l'habitude avec la Lectio Divina, ce que nous ferons avec ce passage, nous avons l'habitude d'évoquer l'Esprit-Saint. Alors, allons-y tout de suite. Esprit-Saint, nous faisons appel à toi pour que tu nous aides à entrer dans la compréhension de ce texte, que tu ouvres notre cœur, notre intelligence, pour que nous puissions l'accueillir et accueillir la parole de Dieu qui s'est dit pour nous. Amen. Alors, je vous lis ce passage de Marc. Je le lis dans une traduction qui se veut la plus littérale possible. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, proclamant l'Évangile de Dieu et disant que le temps est accompli et que le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Et longeant la mer de Galilée, il vit Simon et André jetant le filet dans la mer. Ils étaient en effet des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je vous ferai devenir des pêcheurs d'hommes. » Et aussitôt laissant les filets, ils le suivirent. Et s'étant avancé un peu, il vit Jacques, celui de Zébédée, et Jean, son frère, dans la barque, réparant les filets. Et aussitôt il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque, avec leurs salariés, ils partirent derrière lui. Alors, prenons la première étape de la Lectio Divina, qui est la Lectio, où nous essayons de comprendre ce que dit le texte. Alors, vous voyez, après un court sommaire qui synthétise le ministère de Jésus, Marc raconte comment il a appelé deux couples de frères à se mettre à sa suite. Nous avons affaire, en fait, à deux petits récits de vocation qui sont structurés de la même façon. Marc semble s'être inspiré du récit de l'Ancien Testament dans lequel, vous savez, Élie appelle Élisée à devenir son disciple au premier livre des Rois, au chapitre 19. Alors, à l'exemple d'Élisée, ben, les hommes appelés par Jésus suivent le maître en abandonnant leur travail puis leur famille. Puis là, ben, Jésus prend l'initiative. En première chose qu'il fait, c'est qu'il prend l'initiative d'établir un contact. Puis son appel rejoint Simon et André pendant leur quart de travail. Et je trouve ça intéressant parce que Marc enseigne à ses lecteurs qu'un appel du Seigneur, ça peut les rejoindre à tout moment, même au milieu des occupations journalières. Puis notons que le premier appelé, c'est nul autre que Simon. Hein, le futur Pierre. Et ça, ben, ça reflète la première place qu'il occupe dans la communauté chrétienne au moment de la rédaction de l'Évangile. Puis, portons attention à la manière dont Jésus s'adresse aux deux pêcheurs. Il leur dit, « Venez derrière moi. Hein, » il les invite à marcher derrière. Ben, l'image de la suite, elle était bien connue à l'époque. Elle servait en fait à décrire la condition de disciple. Par ailleurs, précisons que Jésus donne pas un ordre, mais il appelle, hein, il interpelle. Mais Simon et André demeurent libres devant cet appel. Puis là, Jésus ajoute, « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Ah, ben qu'est-ce que ça signifie, ça, devenir pêcheurs d'hommes? Ben, pêcher, ça consiste à retirer des poissons de la mer pour les mettre dans une barque. Or, dans la culture du monde biblique, la mer, c'est souvent perçu comme le lieu d'habitation des forces mauvaises. Par ailleurs, la barque, quant à elle, ben, ça peut symboliser l'Église, ou du moins ce qu'on pourrait appeler l'espace de la communauté du salut. Alors, si on met les termes ensemble, hein, devenir pêcheur d'hommes, pêcher des hommes, ça pourrait signifier les retirer de la sphère où le mal domine pour les faire entrer dans la communauté où opère le salut. D'ailleurs, un petit peu plus loin dans son évangile, lorsque Jésus va envoyer les 12 en mission, il va justement leur donner autorité sur les esprits impurs. Ça, c'est dans l'évangile, au chapitre 6 de l'évangile de Marc, les versets 6, 12 et 13. Bon, là, la question qui se pose, c'est bien beau que Simon et André soient appelés, mais comment est-ce qu'ils vont se positionner, eux autres, devant un appel comme celui-là? Eh bien, on lit, « Aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent. » Oh, ben, c'est impressionnant comme réponse. Ils acquiescent immédiatement. Ils ne sollicitent pas de délai pour réfléchir. Non, ils répondent tout de suite. Bien sûr, l'objectif de Marc, ce n'est pas de raconter les choses exactement comme elles se sont passées. Son objectif, ce n'est pas la vraisemblance. Mais ce qu'il veut, c'est plutôt de donner un enseignement catéchétique aux lecteurs, aux lectrices, sur la manière idéale pour un disciple de répondre aux appels du Seigneur dans leur vie. Évidemment, lui dire oui, ça implique toujours des renoncements. Et dans le cas de Simon et André, ben, ça suppose de quitter leur travail. Nous savons toutefois qu'avec le temps, ils vont devoir laisser bien davantage que seulement leur travail. Mais pour l'instant, Jésus leur demande d'abandonner leur source de sécurité. Hein? Ils vont devoir avancer vers de l'inconnu en apprenant à se fier à lui, Jésus. Bon, Jésus continue, je dirais, de longer la mer de Galilée. Et voici que se répète le même processus vocationnel pour deux autres frères. Il s'agit cette fois-ci des deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, qui vont devenir des personnages très présents dans la suite de l'évangile de Marc. Je dirais qu'avec Simon et André, les deux premiers appelés, en tout cas avec Simon-Pierre, ils vont faire partie du trio des intimes du Seigneur, qui l'accompagneront là, vraiment dans des moments très importants où ils vivront des expériences particulières avec lui. Puis eux autres aussi, dès que Jésus les appelle, ils se mettent immédiatement à la suite du maître. Hein? Mais Marc, dans leur cas, décrit un petit peu plus en détail l'ampleur des renoncements qu'ont à faire ses nouveaux disciples. Alors, nous allons aller en musique et tout de suite après, nous poursuivons cette lectio de Marc 1, les versets 14 à 20. Thank you. Vous êtes toujours à l'antenne de Radio Galilée en compagnie du Père Michel Proulx, chanoine prémontré, et nous explorons ensemble mon livre « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc ». Nous sommes aujourd'hui au chapitre 1, les versets 14 à 20. Nous poursuivons la démarche de lectio de ce passage. Jésus vient tout juste d'appeler un deuxième groupe de deux frères, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Et ce que nous voyons, c'est que ces deux fils ont à faire des renoncements pour suivre Jésus. Non seulement ils quittent leur travail comme Simon et André, mais en plus, nous voyons qu'ils ont acquitté certaines relations familiales. Ils laissent leur père derrière eux. Alors cet élément-là n'est pas anodin pour le public cible de Marc, composé majoritairement de Romains. Je vous explique, c'est qu'à l'époque de l'écriture de l'Évangile, très probablement entre 64 et 70, qui était une période de grande persécution déclenchée par l'empereur Néron, la pratique de la foi chrétienne était illégale. Néron avait condamné ceux qui seraient trouvés pratiquant la foi chrétienne, il les condamnerait à la peine capitale. C'est l'une des raisons pour lesquelles plusieurs convertis subissaient le rejet de la part de leur famille. Leurs frères, leurs sœurs, leur parenté ne voulaient plus qu'on vienne les visiter, parce qu'ils craignaient d'être perçus, eux aussi, par les autorités, comme des sympathisants du Christ. Puis ils craignaient d'en subir, je dirais, les conséquences funestes, ils craignaient les persécutions. Ce qui fait que les convertis, en optant pour le Christ, devaient, eux aussi, laisser père, mère, autres membres de leur famille. Alors voyez-vous, ils pouvaient se reconnaître dans le renoncement de Jacques et Jean, puis ils pouvaient trouver un encouragement dans ce passage. Alors, les fils de Zébédée, on voit qu'ils délaissent aussi des ouvriers. Donc, ça donne à penser qu'ils n'étaient pas des pauvres. C'était des gens qui possédaient une barque, des filets, des employés, travaillaient pour eux. Dans le fond, ils étaient dans une petite et moyenne entreprise, si je puis dire. Et ils quittaient donc aussi un statut social en suivant Jésus, une certaine aisance économique. Alors, ce que nous voyons, c'est que cette journée-là, Jésus a fait une très bonne pêche, lui aussi. Il se montre lui-même un très bon pêcheur d'hommes. Parce que en une seule journée, nous voyons que Jésus a réussi à se constituer un premier noyau de disciples formant une communauté autour de lui. Alors voilà qui termine notre étape de lectio, c'est-à-dire c'est l'étape où nous essayons toujours de voir que dit le texte. On essaye de le comprendre dans son sens premier. Passons maintenant à la deuxième étape d'une démarche de Lectio Divina, qui est la méditatio. Alors ça, c'est l'étape où nous essayons de voir comment ça peut nous rejoindre, un texte comme celui-là. Comment ça peut s'appliquer à nous, éventuellement à la situation de notre Église aujourd'hui. Lorsque nous méditons sur ce passage, nous réalisons que le premier appelé à avoir répondu avec générosité, c'est nul autre que Jésus lui-même. Avant d'avoir appelé des disciples, Jésus lui-même s'est laissé interpeller par l'appel de Dieu le Père, un appel qu'il avait entendu, dans le fond, tout spécialement à travers son baptême par Jean-Baptiste. On ne sait pas exactement comment ça s'est passé, cet appel pour lui. Mais à travers ce récit d'aujourd'hui, au chapitre 1, les versets 14 à 20 de Marc, nous le voyons dire oui par sa vie. Nous le voyons dire oui par son engagement à prêcher la bonne nouvelle du royaume. On le voit en pleine action, il débute son ministère en appelant des disciples autour de lui qui l'accompagneront tout au long de son ministère public. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'au moment de commencer sa mission, il sait que c'est un engagement qui est dangereux. Hein, Jean-Baptiste vient tout juste d'être livré et d'être mis à mort, d'être livré pour le mort, d'être emprisonné. Donc, Jésus est conscient, au moment où il entreprend son ministère, que son oui au Père peut lui coûter la vie. Mais malgré ça, il choisit d'aller de l'avant. Hein? Manifestement, il est prêt à bien des renoncements pour se mettre au service de la volonté du Père. Eh bien, il me semble, je ne sais pas vous autres, là, mais moi je trouve que c'est très interpellant. Ça nous interpelle, ça. Hein? Comment ne pas admirer, en tout cas, son courage? Par ailleurs, devenir disciple de Jésus, nous voyons dans ce texte que c'est apprendre à répondre comme lui aux appels que l'Esprit-Saint fait résonner en nous. Dans son récit, Marc nous montre aussi des disciples qui, eux autres aussi, répondent généreusement puis promptement à la manière de Jésus. Oui, Jésus a répondu à son appel, mais là, nous avons été témoins que quatre hommes, Simon et son frère André, Jacques et son frère Jean, les deux fils de Zébédée, ont été appelés par Jésus et ont répondu promptement. Alors, ça nous montre à nous qu'être disciple, c'est répondre, en tout cas, c'est essayer de répondre de cette façon-là, généreusement, promptement, à leur façon, comme ils l'ont fait. Même si nous imaginons qu'historiquement, les choses ne se sont peut-être pas passées aussi rapidement, aussi simplement. Il reste que ces hommes-là sont arrivés à s'engager pleinement à la suite du Seigneur Jésus. On imagine bien qu'historiquement, tout comme nous aujourd'hui, arriver à donner toute sa vie, tout laisser pour suivre Jésus, on imagine bien que ça doit prendre un temps de discernement. Ces hommes-là étaient des humains comme nous. Mais en tout cas, ils y sont arrivés. Et nous savons comment ils sont arrivés jusqu'à donner leur vie par la suite pour la cause de Jésus. Eh bien, par le oui empressé de ces personnages, il me semble que Marc y réussit à stimuler notre désir de suivre le Maître. Mais quand on y pense bien, peut-être que spontanément, vous dites « Ah, ben moi, je ne serai jamais capable. Moi, je ne suis pas Jésus, je ne sais pas. » Mais quand on y pense bien, chacun, chacune de nous, nous sommes déjà en route. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un certain nombre de « oui » que nous avons déjà donné à Jésus, que nous avons déjà donné à l'Évangile tout au long de notre vie? Il me semble que, je suis sûr que si vous regardez votre vie, il y en a déjà des réponses positives qui lui ont été données. Puis je dirais que, simplement, le fait d'écouter cette émission, le fait d'y porter oreille, de continuer à l'écouter, c'est déjà un oui donné à l'Évangile. Et il y a probablement eu, dans votre vie, comme dans la mienne, bien des occasions déjà de dire des oui. Oh, bien sûr, il y a certainement eu des occasions aussi où nous nous sommes fermés aux impulsions de l'esprit. Mais il ne faudrait pas que ces fermetures momentanées ou passagères nous empêchent de voir qu'il y a eu des oui, qu'il y a eu des moments de réponse positive et qu'à divers moments, on était capable de laisser de côté certaines choses, peut-être certaines situations, pour être capable de nous mettre en route et de marcher dans le sens de l'Évangile. Nous allons aller en musique et au retour, nous continuerons notre méditatio et aussi nous irons à l'oratio, c'est-à-dire à la prière du texte. Vous êtes toujours en compagnie du Père Michel Proulx à l'antenne de Radio Galilée, à l'émission Le déroulement du livre. Vous êtes à l'écoute d'une série d'émissions qui vous permet de creuser l'Évangile de Marc à l'aide du livre que j'ai écrit récemment qui s'intitule « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc » publié chez Mediapol. Dans ce livre, nous approchons des passages de l'Évangile de Marc qui sont proclamés aux messes du dimanche. Et aujourd'hui, nous nous penchons sur Marc, chapitre 1, les versets 14 à 20. Et après avoir lu le texte, essayé de le comprendre, nous sommes à l'étape de la méditatio, celle où nous essayons de voir comment ce passage peut nous rejoindre personnellement, comment il peut s'appliquer à nous. Nous avons été frappés de voir comment dans ce passage, bon, d'une part, comment Jésus lui-même a répondu à l'appel du Père, mais aussi comment quatre hommes ont accepté de se mettre en route à la suite de Jésus. Comment ils ont accepté de répondre à son appel en faisant des renoncements, en quittant leur travail, en quittant certaines relations familiales. On voyait comment ça correspondait à une situation à l'époque où l'Évangile de Marc a été écrit, dans le cadre de l'Empire romain, où est-ce que les personnes étaient persécutées et où elles avaient aussi à abandonner leur travail, à abandonner des relations familiales et où elles devaient même être prêtes à donner leur vie parce que l'empereur Néron avait déclaré illégale la pratique de la foi chrétienne et condamnable de la peine de mort. Dans ce passage que nous explorons aujourd'hui, nous avons vu qu'il débutait par un appel à la conversion. Il débutait en disant « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Ben, il me semble que c'est un appel qui s'adresse à nous encore aujourd'hui. Hein, c'est un appel qui pose des questions, qui pose questions à chacun et à chacune de nous. Par exemple, des questions du genre de celle-ci. Quelle conversion est-ce que j'aurais à faire, moi, pour être plus disponible à la voix du Seigneur? Moi, est-ce que j'aurais des renoncements à faire pour suivre le Christ? Puis évidemment, ben, faire des renoncements, c'est pas pour le plaisir de renoncer. Je pense pas que personne qui soit masochiste, être disciple de Jésus, c'est certainement pas chercher la souffrance pour la souffrance. Mais est-ce qu'il y aurait des renoncements à faire pour être plus libre dans la suite du Christ? Est-ce que j'entends résonner en moi un appel auquel j'ai tardé à répondre? Nous avons vu que ces quatre hommes ont été appelés par Jésus. Moi, est-ce que le Seigneur m'appelle à quelque chose? Est-ce qu'il m'appelle à me mettre à son service? Je ne sais pas, c'est peut-être, je sens peut-être l'appel à aller servir des personnes plus pauvres, à aller visiter des malades, à faire tel type de bénévolat, à rendre un service dans ma paroisse, à être plus disponible ou plus audacieux pour témoigner de ma foi. Hein? Alors, est-ce qu'il y a un appel qui résonne en moi de ce temps-ci et auquel j'ai tardé à répondre? Alors, est-ce que je pourrais choisir, à la manière de ces quatre hommes-là, de dire un oui? Hein? Alors, comment je vais me situer devant cet appel? Alors, voilà un peu le genre de question, me semble-t-il, que fait résonner en nous le texte de Marc, chapitre 1, les versets 14 à 20. Alors, passons maintenant à une dernière étape dans notre démarche de Lectio Divina sur ce passage de Marc, qui est l'étape qu'on appelle oratio. Oratio, qui est un terme latin, qui veut tout simplement dire prière. Alors, à l'étape de l'oratio, c'est l'étape où nous répondons à ce que nous avons entendu, à ce que nous avons perçu comme appel de Dieu à travers le texte biblique. Alors, je vous invite, si vous le désirez, à vous mettre en prière. Je vais faire une prière devant vous inspirée du texte de Marc. Alors, je vous invite à vous joindre à moi, éventuellement à l'adapter à votre propre situation. Seigneur Jésus, je contemple le oui en action que tu as donné au Père. Je te contemple dans ton engagement à annoncer la bonne nouvelle. Malgré les risques, malgré les renoncements que cela supposait. Merci, Seigneur, pour cet enseignement en acte. Seigneur, je te remercie d'avoir un jour jeté les yeux sur chacun de nous, de nous avoir choisis, appelés à te suivre en tant que disciples. Comme pour Simon et André, Jacques et Jean, merci Seigneur d'avoir pris l'initiative d'entrer en relation avec nous. Merci aussi pour cette bonne nouvelle de la proximité du règne. Seigneur, je t'exprime aujourd'hui que c'est une grande joie de pouvoir cheminer avec toi comme disciple. Esprit Saint, aide-moi à faire des pas de plus dans l'accueil de l'Évangile. Aide-moi à me convertir plus profondément. Je désire adopter une mentalité, des comportements qui soient vraiment en harmonie avec le règne de Dieu que tu nous as annoncé. Aide-moi aussi à accueillir ce règne dans ma vie. Esprit Saint, en terminant, apprends-moi à répondre aux appels de Dieu, aux appels de Jésus, comme ses quatre premiers disciples. Ouvre mes oreilles lorsque je n'entends pas. Donne-moi courage et générosité lorsque j'hésite ou lorsque je tarde à répondre. Viens m'aider à vaincre mes résistances. Fais grandir en moi la disponibilité. Merci, Esprit Saint. Amen. Alors voilà qui clôt notre démarche de Lectio Divina sur Marc 1. 14 à 20. Alors, je suis le Père Michel Proulx, chanoine régulier de Prémontré. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et nous nous retrouvons la semaine prochaine. À très bientôt.
Déroulement du livre, vous venez d'entendre le Père Michel Proulx, chanoine régulier de l'Ordre des Prémontrés, auteur de l'ouvrage « Entre puissance et dépouillement, prier l'Évangile de Marc », paru aux éditions Médiapol.